Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
Je m'appelle Marc, j'ai 56 ans. J'ai intégré la section d'intervention du RAID, l'unité d'élite de la police nationale, pendant 20 ans. Mon métier, c'était opérateur d'assaut et opérateur d'effraction, c'est-à-dire l'ouverture de portes à l'explosif. C'est un métier qui demande de s'engager pour l'intérêt commun. D'un côté, il faut des qualités de réflexion et de discernement, mais de l'autre côté, il faut aussi des qualités d'enthousiasme et de lâcher prise. Maîtriser ces ambivalences m'a beaucoup aidé quand je me suis retrouvé aux premières loges des événements marquants de ces dernières années. L'assaut contre Mohamed Merah, la traque des frères Kouachi, meurtrier de Charlie Hebdo, la libération des 26 otages de l'hypercachère de la porte de Vincennes, les opérations liées aux attentats du 13 novembre 2015. Ces 20 ans, bien sûr, je ne peux pas les oublier. Ça représente une vie rythmée par l'adrénaline, la lumière de mes frères d'armes, mais aussi la noirceur de la folie humaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole et de raconter le cœur de mon métier.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Nous sommes en direct sur France 2. Le procès des attentats de Nice s'est ouvert la semaine dernière. Et cet après-midi, nous voulions mettre en lumière celles et ceux qui sont toujours en première ligne de ces drames, l'unité d'intervention du RAID. Comme Marc, ils sont opérateurs, médecins, négociateurs au sein de ce groupe d'élite. Ils ont vécu de l'intérieur les drames auxquels nous avons tous assisté devant notre télévision. Et ils ont aujourd'hui... accepté de nous raconter leur quotidien sans filtre. C'est une immersion passionnante au cœur d'une unité très spéciale que nous vous proposons de découvrir cet après-midi. Merci d'être fidèle à Ça commence aujourd'hui. Bonjour Marc.
Enchanté, bonjour.
C'est votre voix qu'on a entendue. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté, Mathieu, que vous connaissez bien, je crois. Vous avez eu l'habitude de travailler ensemble.
Oui, plusieurs années, oui.
Merci Mathieu également bonjour. D'avoir accepté. On connaît mal ce métier, mais je ne savais même pas qu'il y avait des médecins au cœur même des colonnes d'assaut. C'est passionnant. Merci d'avoir accepté de nous raconter votre histoire également. Et à vos côtés, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous avez été négociateur, vous.
C'est ça.
Et vous avez aussi toute votre histoire à nous raconter. Merci encore une fois pour votre confiance.
Merci.
Je vous présente Natacha Espier, qui est psychologue, et Marc Gégère, qui est avocat, qui vont nous accompagner tous les deux aujourd'hui. Je disais que c'est rare de vous entendre prendre la parole. Pourquoi, en général, vous êtes toujours cagoulé et pourquoi, aujourd'hui, vous pouvez le faire, Marc ?
Quand on est opérateur d'assaut, c'est pas notre travail d'aller communiquer. Il y a des gens qui ont ce métier-là. Aujourd'hui, moi, j'ai pris ma retraite en 2018. Maintenant, je peux m'exprimer.
Et ça fait du bien de s'exprimer, justement. On a envie de se raconter un petit peu, loin des cagoules et des clichés.
Moi, pour ma part, ce n'était pas un besoin de m'exprimer. C'était plus l'envie de... Alors, moi, j'avais écrit un bouquin en 2016, qui est sorti après les attentats, qui était plus, pour moi, la nécessité de raconter de l'intérieur les faits, qui étaient des faits dramatiques que tout le monde connaissait, et aussi de donner mon regard en tant que médecin sur l'unité, sur Marc et tous nos camarades.
Et ces unités
d'élite. Mais après, ce qu'a dit un peu Marc et ce qui transparaît dans le petit reportage qu'on a vu, on n'aime pas tellement la lumière, on aime plutôt justement être
dans
la cagoule et dans l'ombre. Donc c'est assez difficile de se retrouver obligé de communiquer.
Bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir accepté d'être dans la lumière, justement.
Comment ?
Merci d'avoir accepté d'être dans la lumière aujourd'hui. Je savoure votre confiance. Je vous invite d'ailleurs à laisser tous vos messages à nos invités. Le hashtag c'est CCA sur les réseaux sociaux. Vous pouvez leur poser vos questions également. Nous tâcherons d'y répondre tout au long de cette émission. Combien de missions vous avez effectuées, Marc, durant toute votre carrière ?
Un opérateur du RAID fait environ 20 à 60 opérations par an. Donc
ah oui.
Là, il faut multiplier ça par 20. Oui, parce qu'en fait, si on faisait que les interventions antiterroristes, si on faisait que les prises d'otages, si on faisait que les forcenés,
bien sûr.
En fait, on ne ferait pas assez d'interventions par an. Et donc, on fait aussi beaucoup d'assistance à police judiciaire pour garder la main. Si bien que, voilà, en moyenne, c'est une 40-50 opérations par an.
Et vous êtes spécialisé dans un domaine ?
Alors, au tout début, on est généraliste. Généraliste, ça veut dire porteur de bouclier dans la colonne d'assaut.
D'accord.
Et puis au bout de 3 ans, quand on commence à maîtriser cette tâche-là, eh bien, on commence à passer d'autres spécialités, comme le tir-fusil. Et moi, je me suis spécialisé dans les fractions, c'est-à-dire l'ouverture de portes, mais de murs, de fenêtres, et notamment l'explosif.
Quelles sont les missions les plus marquantes auxquelles vous avez participé, Marc ?
Alors, en 20 ans, évidemment, j'en ai participé à...
Vous dites ça presque avec un peu de nostalgie. En 20 ans, ma bonne dame.
Non, mais bon, oui, j'ai connu une grande période. Dans la colonne d'assaut, 20 ans, ce n'est pas banal. Surtout, c'est possible dans la police parce qu'on peut vieillir un petit peu. Moi, j'étais encore dans la colonne d'assaut à 53 ans, ce qui n'est pas possible chez les militaires parce qu'il y a un engagement physique. Quand vous êtes déposé à plusieurs kilomètres de votre objectif, s'il y a un blessé, il faut ramener le blessé sur 10 kilomètres. Nous, on est à 500 mètres de la crise. Quand j'ai reçu des balles lors de l'affaire Mera, 10 minutes après, j'étais à l'hôpital. Donc, on peut vieillir. Pourquoi on vieillit ? Enfin, pourquoi on peut rester un ancien dans la colonne d'assaut ? Parce qu'il y a certaines spécialités, comme le tir-fusil ou comme l'effraction, justement, où il faut beaucoup d'expérience. Pour ouvrir une porte, maintenant, en plein milieu de Paris, eh bien, il faut maîtriser... La porte doit s'ouvrir absolument, donc il faut mettre la bonne dose. Mais par contre, si on met un peu trop, non seulement l'effraction peut être un échec, mais également l'énergie va nuire soit à la colonne d'assaut, soit à l'environnement, soit à l'objectif.
Donc l'affaire Mera, l'hypercacher,
la recherche d'Ivan Colonna, Mohamed Mera, le 21 mars 2012, l'hypercacher, les attentats du 13 novembre 2015. Et puis, voilà.
Toutes celles, les autres qu'on connaît moins, auxquelles vous avez participé. On voyait sur ces images ce matériel extrêmement impressionnant. Encore une fois, je souligne à quel point c'est plus surprenant de vous voir démasqué, j'allais dire. Juste cet attirail, cet uniforme, ça pèse combien, pour information ?
Moi, je pesais 80 kilos en tenue noire, 120 kilos avec mes protections et mon armement, 150 kilos avec mon matériel et fraction d'urgence. Je le sais parce qu'on nous pèse tous les 5 ans environ pour que quand on doit monter dans un hélicoptère, on puisse dire au pilote combien on pèse. Ce n'est pas un ascenseur, l'hélicoptère, ce n'est pas 5, 6 personnes. Il faut dire combien on pèse.
Exactement pour ne pas mettre... même.
Non, pas exactement, mais voilà. On ne peut pas dire une personne. Moi, je ne pèse pas une personne puisqu'avec mon matériel, je fais 150 kilos. Ouais. Donc, il faut lui dire à la louche combien on pèse et comme ça, il additionne et il voit à peu près... À partir de quel moment il n'est plus en sécurité ?
Je vois que Mathieu se moque un peu de mes questions. Qu'est-ce que je lui ai dit qui vous a
aidé ? Non, c'est de son poids dont je me moque.
Ah d'accord. Okay.
Non, c'était juste par rapport à ce qu'a dit Marc. Je crois que c'est la force du raid, justement, c'est qu'il y a une vraie maturité. Donc on voit la longévité des opérateurs. L'explication, pour moi, elle n'est pas uniquement dans le type de mission qu'on a à faire. Et en effet, on n'a pas à marcher pendant 30 bornes. Mais ce n'est pas la seule explication, c'est qu'on est vraiment confronté, le cœur des missions du RAID, c'est d'être confronté à la souffrance humaine. Il n'y a pas que le terrorisme, il y a toutes les prises d'otages.
Oui, c'est ce que vous nous avez dit, ouais.
Et là, l'intérêt, c'est d'avoir des gens qui ont une vraie expérience. Et ça, je pense que vous confirmerez ce que je dis, mais il y a une vraie maturité. C'est des gens, vous voyez, nos têtes, on a du vécu, même si on est parti, mais on n'est pas parti il y a très longtemps. On a du vécu, on a un cuir qui est un peu épais. Et ça fait la force de... On n'est encore physiquement pas trop cassé.
Pas trop de...
Parce qu'on est capable donc de porter,
encore
pour Marco, 150 kilos, c'est sûr. Non, je plaisante, je suis cher.
Mais la force du groupe, c'est l'hétérogénéité. Ouais. On ne pourrait pas faire une colonne d'assaut qu'avec des gens d'expérience de 53 ans. Mais la force de la police, c'est l'adaptabilité, parce que en pleine ville, c'est très sensible. Donc, on a des profils différents, des profils police judiciaire, des profils sportifs.
Et c'est ce qui fait votre complémentarité. On va revenir, puisqu'on parle de corps cassé, justement, à cette date qui a été très importante pour vous, donc, et pour nous tous, le 21 mars 2012. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mohamed Mera et pourquoi ça reste une date charnière dans votre vie à vous, Marc ?
L'intervention contre Mohamed Mera a duré 33 heures. Dès l'ouverture de la porte, dès qu'on a ouvert la porte, il a tiré sur la colonne d'assaut. Il y a eu un blessé. Enfin, il y a eu plusieurs personnes impactées, mais un blessé au genou. Oui. Et moi, ensuite, j'ai été blessé au bout de 2h30 d'intervention. J'ai pris 2 balles.
Oui. Où ça ?
Et à la fin de l'intervention, il y en a d'autres qui seront blessés également.
Où est-ce que vous avez été touché vous-même, Marc ?
Alors, j'étais à 2,50 m du terroriste, de la porte du terroriste. J'ai pris une première balle, on la voit, en plein milieu du front. C'est du 11-43. C'est un gros calibre qui normalement tue très bien, mais comme il est gros, ça traverse mal les blindages. J'ai été sauvé par mon casque. Mais par contre, alors donc on voit bien l'impact de la balle, mais il y a aussi tout un impact un peu comme une balle de tennis aussi. C'est ce qui m'a frappé. Ça a fait une hémorragie cérébrale et qui s'est arrêtée assez vite. Ça m'a fait basculer et j'ai offert mon dos pour la deuxième balle qui aurait pu me frapper.
C'est bizarre cette expression, j'ai offert mon dos.
Normalement, on ne tourne pas. Je suis tombé en arrière et j'ai vrillé. Et la deuxième balle qui aurait pu me frapper pleine gorge, en fait, m'a frappé l'omoplate. Je suis tombé dans les escaliers. Il a vidé son chargeur, les 5 autres cartouches, pour m'avoir en ricochet. Ça ne m'a pas touché. J'ai simplement été touché par les petits éclats de béton. Et je me suis protégé sous l'escalier.
Vous avez des séquelles? Quoi?
Pas de séquelles. Non, j'ai pas de séquelles. À l'IRM, à 1,5 cm de profondeur derrière l'impact, il y a une sphère de 6,8 mm d'hyperdensité, qu'on appelle ça, c'est-à-dire une cicatrice. Ouais. Au début, je m'inquiétais, je me dis, mais bon, il me manque une petite partie du cerveau. Et je ne sais pas à quoi elle sert. Peut-être je m'en sers.
Attention, parce que je crois qu'il a très envie de vous taquiner. Donc, si vous lui dites ça, peut-être, vous lui tendez la main quand même.
Peut-être que ça sert à faire du surf ou je m'en rendrai compte un jour. Mais pour l'instant,
je ne sais pas à quoi sert cette partie du cerveau.
7 mm.
Pour l'histoire, mais ça, il ne le sait pas, parce qu'il était à l'hôpital donc, à Toulouse. Et évidemment, il y avait la pression des autorités pour avoir des nouvelles des blessés, en particulier de Marco. Et donc, évidemment, on avait un lien avec les médecins qui l'avaient pris en charge. Et donc, on savait qu'il y avait tout ce qu'il a expliqué dans ces termes. Donc, une petite hémorragie avec un œdème cérébral. Et moi, j'avais dit d'abord au médecin que j'étais pas inquiet parce qu'il y avait beaucoup de place dans son cerveau et que l'œdème pouvait se... C'est évidemment une blague que je ne pense pas. C'était pour histoire de détendre... En tout cas, mes patrons et puis à travers ça, les autorités.
Vous avez de l'humour sur le moment même, parce que depuis tout à l'heure, je vois bien que vous avez...
Justement, ça, c'était sur le moment même.
Mmh. Oui, c'est important. En général, les métiers comme les nôtres, le funéraire, la médecine et la police, on met tellement nos mains dans la misère qu'il ne faudrait pas que les gens nous entendent. Des fois, on se détend un petit peu pour dédramatiser.
Bien sûr. Comment vous en êtes arrivé là, vous?
Moi, c'est le sport.
C'est une vocation? Ah, c'est le sport.
J'avais pas de vocation sportive, de police. Dans ma famille, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de policier. Mais j'ai été athlète de haut niveau en judo. J'ai été en équipe de France de judo de 1990 à 1995. Ah. J'ai gagné le tournoi de Paris, ce qui est à Roland-Garros, l'équivalent en
judo. Je vois que vous êtes toujours fier. non, mais je comprends.
Bien sûr, mais je viens de passer mon 6e Dan.
D'accord.
Voilà.
Donc vous êtes un sportif de haut niveau. On ne va pas vous embêter aujourd'hui, du coup, on ne va pas insister.
Je suis rentré dans la police parce qu'il y avait du sport au départ. Et puis finalement, je me suis pris au jeu. Enfin, ce n'est pas un jeu, mais la vocation est venue petit à petit.
Mais on va vous chercher ou on se présente?
Non, au départ, je suis rentré dans la police parce que, pour des raisons, il fallait un métier. Et je sais qu'il y avait du sport dedans. Et puis, je savais que le sport allait servir dans ce métier-là. Et ensuite, j'ai pratiqué la police, en fait, comme un sport. Je voulais arrêter le plus de voyous possible, les plus gros possible. Et c'était c'est ça qui me poussait. Je n'étais pas vraiment impliqué de manière autre que ça. Voilà, faire une performance, arrêter le plus de voyous possible.
C'est drôle, d'ailleurs, parce que vous le dites, c'est presque enfantin de dire je voulais arrêter les méchants, quoi.
Ouais.
Un peu, ouais.
Bon, on est nombreux à rentrer dans la police pour ça. C'est impressionnant quand on discute de savoir le nombre de gens qui sont rentrés dans la police à cause Belmondo.
C'est vrai.
Ouais, on l'avait reçu en plus, je me souviens.
Belmondo, Gérard Lanvin, Alain Delon.
Ah, c'est drôle, alors, qui ont suscité vocation des vocations.
Policière. Oui, parce que voilà, c'est cet aspect un petit peu.
Héros aussi, un peu, ouais.
Héros, on n'aime pas trop le terme.
Pourquoi vous n'aimez pas le terme de héros?
Pourquoi? Parce qu'en fait... Parce que ça fait un peu prétentieux. Quand on est un homme opérationnel, on relance les dés à chaque opération. C'est-à-dire que le lundi, quand on fait une intervention qui s'est bien passée, on n'a pas envie de faire trop le mariole, parce que le mercredi, on peut refaire la même intervention et être en échec. Alors la notion de héros, il y a un petit effet figé, photo glacée.
Oui. Ça ne
correspond pas à la vérité. Nous, on n'arrête pas d'évoluer. On relance nos capacités à chaque intervention. Donc, cette notion figée de héros, On ne l'aime pas trop parce qu'à mon avis, c'est une notion qui t'amène dans le mur si tu y crois.
Pour la BD, le cinéma, on comprend ce que c'est qu'un héros. Nous, notre métier, c'est de faire un métier qui est difficile, dans des conditions extrêmes parfois. Et on se met un très haut niveau d'exigence, comme Marco l'a dit, dans le sport. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Et là, on se reconnaît là-dedans. Et en plus, comme avec toute l'humilité qui est indispensable, parce qu'on sait très bien que ça peut un jour nous sourire, mais le lendemain, non. Et ce qui est important, c'est d'avoir ce niveau d'exigence et qu'on va au contraire, chaque intervention va nous amener à augmenter ce niveau d'exigence. Et en plus, la chance qu'on avait au RAID, c'est que c'était partagé collectivement. Ça n'a rien à voir avec l'héroïsme.
La Légion d'honneur sur le père, c'est quand même un signe d'héroïsme.
Mais ça peut arriver que dans un groupe, certains puissent prendre la grosse tête un petit peu. Il faut juste se rappeler que ceux qui prennent vraiment les risques sur une inter, c'est les primo-intervenants. Et c'est très souvent, ça peut être la police municipale, mais ça peut être le car police secours ou les collègues de la BAC.
Vous avez raison de le dire.
Nous, quand on arrive, en fait, la situation, elle est figée. Il y a déjà un périmètre de sécurité qui a été fait. On arrive, on est entraîné et on est équipé en lourd.
Donc, c'est le job le plus facile.
Je comprends le principe, l'humilité. Ça permet de redescendre sur terre un petit peu.
Oui, je comprends.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas à prendre la vedette par rapport aux autres, en effet.
Vous êtes arrivé face à la porte de l'hypercachère. Vous en gardez quoi comme souvenir? Est-ce que ça fait partie des grandes peurs de votre vie? Mais est-ce qu'on peut parler de peur? Est-ce que la peur, elle ne vient pas plutôt après? Parce que sur le moment, sinon, on est paralysé.
Oui, exactement. C'est le fond de notre métier, de savoir cloisonner. Ça nous sert après dans... tous les métiers doivent savoir faire ça, cloisonner sa profession, cloisonner quand tu rentres chez toi. Mais pour l'intervention de l'hypercachère, en effet, si devant la porte, qui était un challenge, la porte à ouvrir, la porte côté périphérique, c'est-à-dire la porte de service. Ouais. Cette porte, c'était un challenge parce que c'est la porte des réserves. Donc forcément, c'est une porte qui est faite pour ne pas être ouverte, puisque pour résister aux cambrioleurs. Et en effet, quand on s'attaque à une tâche comme ça, avec derrière 26 otages, il faut en effet cloisonner. C'est-à-dire que si on se dit, il y a 26 otages derrière, il y a déjà 4 morts. Il y a des journalistes partout qui filment tous tes faits et gestes. Si tu fais une erreur, elle sera observée, jugée. Non, il faut cloisonner et se concentrer à 100% sur la tâche opérationnelle, la tâche technique qu'il y a à faire.
Il faut presque déshumaniser un petit peu. Il y a une discipline. Non, c'est pas.
Je pense qu'il y a une discipline, c'est-à-dire que vous apprenez plein de techniques, j'imagine, et vous l'avez dit tous les trois. Il y a une part d'aléatoire aussi parce que vous êtes face à de l'humain. Et donc, je pense que pour vous protéger et pour protéger l'opération, effectivement, il faut maintenir une distance. Et puis, il me semble aussi que ce qui vous aide, j'imagine, c'est aussi la cohésion du groupe. Mmh. C'est-à-dire que vous y allez, vous savez que vous n'êtes pas seul néanmoins. Et que vous pouvez compter sur les autres.
Mais on n'est surtout pas dans la déshumanisation. On est au contraire dans la transformation, ce qu'on sait très bien faire. Et en effet, comme tu l'as dit, le collectif nous aide à ça. Et l'entraînement. Et comme l'a dit Marco, c'est-à-dire que c'est pas en vivant une expérience ou une intervention tous les 10 ans qu'on y arrive. C'est au quotidien, ou en tout cas suffisamment régulièrement. Ouais. C'est d'arriver à transformer les émotions en action. Et ça, c'est la grande force. C'est-à-dire on sait qu'il y a des émotions. La peur est une émotion forte. Quand on sélectionne les opérateurs du RAID, ou les médecins, ou les légaux, le fou furieux qui vous fait croire qu'il n'a pas peur, jamais on le prend. La force, c'est quelqu'un qui sait justement accepter son émotion,
mais la transformer,
la maîtriser,
bien sûr,
et être
pour la rendre opérationnelle.
Et c'est ce que Marco a fait.
Il y a une tâche technique. Les émotions, c'est après, c'est avant. Mais pendant, il y a une tâche technique.
On va en parler d'avant et après.
Parce que s'il y a un mort, s'il y a 10 morts, s'il n'y a pas de mort à l'entraînement, c'est la même tâche technique. C'est pour ça qu'il faut cloisonner.
C'est quoi comment on les recrute? Quelles sont les grandes qualités de ces hommes? C'est plus compliqué de leur demander à eux, Marc.
Il faut appartenir à la police nationale pour pouvoir... présenter l'examen. Je crois que tous les ans, il y a une possibilité d'intégrer le RAID. Et ça permet effectivement aux agents de police, que ce soit qu'ils soient gradés ou non d'ailleurs, de pouvoir présenter cet examen. Et ensuite, c'est sur vos compétences, vos qualités, vos capacités que la sélection se fait.
Marco, parce que depuis tout à l'heure, c'est Marco. Marco, où est-ce que vous étiez pendant les attentats du 13 novembre ?
Le 13 novembre, comme il y avait 8 attentats en même temps, quasiment, il y a une première équipe d'une dizaine de personnes qui a été directement au Bataclan, une deuxième qui a été directement encore au Bataclan. Moi, je faisais partie de la troisième équipe qui est intervenue sur un immeuble à côté du bar La Petite Bière parce qu'il y avait 5 morts à cet endroit-là et la police avait encerclé un immeuble. Il y avait des douilles par terre. Ils avaient vu 2 terroristes se réfugier dans cet immeuble.
D'accord. Juste, comment vous êtes au courant des choses ? On vous appelle, tout simplement, on vous missionne, vous recevez un message, tout, juste très concrètement. Comment ça se passe ?
Alors, normalement, sur une intervention normale, c'est-à-dire une prise d'otage normale, c'est environ 50 cobies qui sonnent. Une équipe d'alerte, c'est environ 25 personnes. Mais sur une affaire aussi compliquée, tout le monde a été rappelé, c'est-à-dire le groupe d'alerte, c'est-à-dire ceux qui ont le COBI, qui sont prêts à rentrer, c'est 25 personnes.
Le COBI, merci Mathieu, je sentais que...
C'est pas un langage médical, mais je vais quand même traduire. Le COBI, c'est en fait un alpha-page qui permet de nous alerter.
D'accord, ok.
C'est
l'ancien tam-tam.
C'est ça.
Oui, mais
ça.
Alors au RAID, on est même encore avec un dispositif... Non, je plaisante.
Oui. Et donc quand ça a sonné, là par contre, quand on sait qu'il y a 8 attentats, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sait que ça tire partout dans Paris. Tout le monde est rappelé, même ceux qui sont en stage. Moi, je n'étais pas d'alerte, j'étais en stage. J'étais en stage de recyclage de mes diplômes police. Et d'ailleurs, quand je suis rappelé, je sais que j'ai plus de tenue noire. Ma tenue noire, il y en a une dans le vestiaire de l'école de police où je fais mon stage. Il y en a une qui est en train de sécher. Et j'ai été obligé d'aller chercher celle que j'avais gardée en souvenir de celle de Mohamed Merah avec les 2 trous dans l'épaule.
Ah ouais ?
Donc, quand même, un vendredi 13 novembre, aller chercher une tenue déjà impactée.
C'est fou ce que vous nous racontez.
Il faut cloisonner si vous êtes super.
Ah ouais, c'est fou. Et vous êtes allé dans cet immeuble dont vous nous parliez, qui est à côté
oui,
de là.
Alors mon rôle, j'étais aussi à l'effraction. Et là, on a eu à fouiller cet immeuble. C'est un immeuble de plusieurs étages.
Donc on ne savait pas s'il y avait des terroristes qui étaient donc dans cet immeuble.
Il y avait des douilles, oui. La police avait encerclé l'immeuble et nous disait qu'il y avait 2 terroristes. Donc on était sûr qu'il y avait 2 terroristes. Au final, ils n'y étaient pas. Mais nous, pendant toute l'intervention, 1 ou 2 heures, on a pensé qu'il y avait les 2 terroristes. Ça veut dire qu'on a tapé discrètement aux portes pour évacuer les gens qui habitaient là. Et ensuite, on fouillait leur appartement. Mais le problème venait quand les portes ne répondaient pas. Là, quand vous frappez à une porte et que ça ne répond pas, vous ne savez pas si derrière, il y a les fameux 2 terroristes que vous imaginez équipés de Kalachnikov et de... Parce qu'il y a de la Kalachnikov qui a tiré, mais aussi, comme on venait de finir la traque des Kouachi, qui était équipée aussi d'un lance-roquette. Voilà. Donc on se dit, si derrière la porte, il y a peut-être un lance-roquette et de la Kalachnikov.
Ça, c'est éprouvant de ne pas savoir, oui, d'être devant cette porte sans savoir ce qu'on a derrière.
Bien
c'est
sûr,
épuisant.
Bien sûr. Aussi. Moi, j'ai cassé 11 portes. Quasiment, c'est... Alors, moi, je m'exprime en parlant de suicide, mais le suicide, c'est un abandon. Mais pourquoi on a pris énormément de risques devant ces portes ? C'est parce que, justement, derrière, quand ça ne répondait pas, on ne savait pas si c'était les 2 terroristes ou simplement des gens apeurés qui ne voulaient pas ouvrir à la police ou tout est possible.
Oui, des gens tétanisés,
des sourds-muets ou quelque chose comme ça. Si j'avais ouvert les portes avec mon camarade, on est 2 à l'effraction à chaque alerte, si avec mon camarade, on avait ouvert les portes à l'explosif, on prenait le risque de tuer un civil. Donc... on a ouvert les portes de manière mécanique et ça oblige à nous exposer beaucoup plus. Donc chaque porte qu'on a cassée, on s'est dit si jamais il y a les 2 terroristes derrière, on va subir des tirs. Ouais.
Voilà. Comment vous décompressez après une nuit pareille ? Est-ce que là aussi il y a une discipline à mettre en place pour se sortir de ça ? C'est-à-dire, après une nuit comme ça, on rentre chez soi ?
C'est le cloisonnement dont je vous parlais. Quand on rentre chez soi, si on ne décompresse pas... Enfin, je pense que ça concerne tous les métiers. Il ne faut pas ramener son travail à la maison. Il faut faire un pense-bête et on reprend le pense-bête le lendemain matin. Pour nous, au RAID, c'est évident. Moi je m'aidais avec une espèce de légende amérindienne qui disait qu'on avait en nous 2 loups. Un loup d'amour, blanc, et un loup de haine, noir. Voilà ce qu'il disait. Et que le loup qui prenait le dessus, c'est celui à qui tu donnais le plus à manger. Et dans la police, et notamment dans une journée d'attentat comme ça, c'est le loup noir à qui on donne à manger. Donc, si on revient à la maison avec le loup noir développé, quand notre enfant vient nous raconter ses petits problèmes du quotidien, une mauvaise note, c'est peut-être le loup noir qui va le...
Ouais, je comprends.
Donc, il faut... Cette image-là, moi, ça m'aidait à me dire, bon, là, aujourd'hui, tu as bien nourri ton loup noir. Écoute, tu vas faire une petite séance de sport.
Tu
vas lire quelques pages pour rentrer à la maison opérationnelle. Ouais, et parce que, en fait, la vie...
Opérationnelle à la maison, c'est drôle. On est aussi opérationnel le lendemain.
Parce que finalement, quand on regarde bien la vie privée, c'est quand même une opération qu'il faut réussir.
Est-ce que vous aussi, vous étiez au Bataclan, je sais,
oui.
Mathieu. Le lendemain matin, vous avez une vie de famille, on rentre à la maison. Comment ça se passe, vous aussi?
Alors, ce qu'a dit, alors moi, je suis moins poétique que Marc, donc je vais ramer là. Mais ce qu'il veut dire, c'est on le comprend très bien et on le vit chacun d'une manière différente. Moi, je crois qu'on a besoin de sas. Alors, c'est la fameuse omelette, par exemple, qui est un moment un peu convivial qu'on partage entre nous. En général, après ce qu'on appelait les 6 heures du mat, donc les assistances à police judiciaire, comme l'a expliqué Marco. Après le Bataclan, enfin après la nuit du 13, on s'est tous retrouvés. Alors moi, je ne parlerai pas de moi, mais j'ai eu une mauvaise idée ce jour-là.
C'est quoi ? Racontez-moi votre nuit du Bataclan.
J'ai voulu retourner ensuite à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, où je travaillais, pour aller boire une bière avec mes amis de l'hôpital.
Ouais.
Or, il y avait un moment aussi convivial qui s'organisait au RAID, où les gens partageaient un petit moment avant de rentrer chez soi. Et moi, je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital, c'était une très mauvaise idée parce qu'eux, ils bossaient à ce moment-là. En fait, on était en décalage. Donc, je suis arrivé, j'ai vu que je dérangeais, je suis reparti. Et là, c'était un petit mauvais moment.
Vous étiez dans le Bataclan vous-même, vous aviez été appelé dans le Bataclan.
Ouais.
Comment justement, vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé?
Oui, bien sûr.
Vous avez été appelé à quelle heure?
On est tous appelés, en fait, comme l'a expliqué Marc, on est tous appelés avec un motif d'alerte qui est attentat sur Paris, sans en donner plus. En plus, moi, j'ai le rôle de chef de la section, enfin, des médecins. Donc, très vite, on a l'information que c'est des attentats, mais quand nous, on est rappelés, c'est franchement très, très flou. Il y a le Stade de France... Et il se passe des trucs sur Paris, mais voilà. Et le patron, Jean-Michel Fauvergue, me dit, on fera 2 équipes, une qui ira sur les terrasses et une autre qui ira au Bataclan. Et donc moi, je fais un choix. J'avais 4 médecins, dont moi.
Ah, c'est ce que j'allais vous
dire. Et donc, je décide de couper la poire en deux, parce que, comme ça a été très bien dit...
Deux, quoi.
Ben, on ne savait pas du tout sur quoi on partait. Donc, on décide de faire une équipe pour les terrasses avec 2 médecins. Parce que ça aurait pu très bien être un extrêmement difficile sur le site dont parlait Marc. Il s'est trouvé que ça a été surtout difficile, en tout cas pour les médecins. C'est sûr que si c'était à refaire, j'aurais mis tous les médecins au Bataclan. Mais je ne regrette pas parce que c'était le choix qui s'est imposé.
Comment on gère la sidération qu'on doit ressentir quand on arrive dans cette salle?
Comme je l'ai exactement dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... c'est là où j'ai vu... Pour la première fois que j'avais un avantage, autant quand les balles sifflent, c'est vraiment face à de la menace. Moi, je suis médecin, je ne suis pas policier. Alors, j'étais entraîné et habitué à aller voir, à être dans cet univers. L'explosif, ça me faisait, grâce à Marco qui m'avait rassuré, ça me faisait moins peur qu'avant. Mais néanmoins, ce n'est pas mon univers. Moi, c'est la blessure et c'est le secours.
Le soin, oui.
Et ce soir-là, quand on rentre dans le Bataclan, je vois le rapport de... Je vais employer un terme, mais le rapport de force dans le terme de gestion des émotions était plus en ma faveur qu'en faveur des opérateurs. Mera, c'est sûr que quand il y a les prises, les tirs, moi,
plus la situation.
Ils sont beaucoup plus à l'aise que moi. Dans le Bataclan, c'est l'inverse. C'est là, moi, je suis malheureusement, c'est terrible ce que je dis, mais d'abord, je l'avais anticipé.
Vous êtes dans votre domaine.
Je suis dans mon domaine de compétences et je sais que là, je vais devoir agir et que les médecins, on va devoir clairement, là, bosser très, très fort.
S'il y a quand même une quantité de blessés...
Oui, mais ça, c'est... On
vous n'étiez que 2, visiblement. Oui, vous êtes arrivés à 2, quoi.
Oui, mais il ne faut pas penser qu'on a découvert ça. On découvre et l'émotion, elle nous impacte fort quand on rentre dedans. Mais c'est quelque chose qu'on avait travaillé depuis des années. Entre autres, c'est trop long à expliquer, mais on avait fait un déclic entre l'affaire Mera, justement l'assaut Mera, et ce qui, les doctrines qu'on a mises en place, en particulier pour pouvoir faire face à une tuerie de masse du Bataclan.
Donc vous aviez anticipé les émotions qui pourraient vous envahir face à une tuerie de masse.
On faisait plein d'entraînements où, alors évidemment, on joue pas avec des, on n'est pas dans le réel, mais l'entraînement est suffisamment impactant.
Oui, je comprends.
On fait de la visualisation et ça nous donne en tout cas la capacité justement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accepter ces émotions aussi horribles soient-elles, pour ensuite être hyper efficace dans notre rôle et dans les actions qu'on va mener.
Vous avez un regret dans cette nuit-là? Vous dites qu'il a fallu que je sois hyper efficace, hyper opérationnelle. Quand vous refaites le film, vous vous dites, si je devais le refaire justement, est-ce que je ferais plus ça, ça, ça?
Alors, j'ai aucun regret, j'ai tiré des enseignements, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que j'ai aucun regret, je suis sûr qu'avec mon collègue, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, qu'on avait prévu. Voilà, je vais parler pour lui, mais j'étais très fier de ce qu'il a fait et je sais qu'on a donné notre maximum. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. En revanche, est-ce qu'on en a tiré des enseignements? Oui, heureusement, c'est une crise unique au monde. On a fait le fait d'organiser, c'est la première fois au monde où on a évacué les blessés qui étaient pris en otage dans la fosse et dans les étages, parce que le rôle, enfin, il faut imaginer qu'il y avait des victimes dans les faux plafonds partout. Donc l'évacuation de ces victimes ou de ces gens pris en otage s'est faite avant l'assaut, pour l'immense majorité, en tout cas pour ceux qui étaient blessés avant l'assaut. Puis après, ça a duré encore pour ceux qui étaient cachés dans les bureaux et sur les toits. Et ça, c'était la première fois qu'on réalisait ça dans le monde. Donc forcément, on en a tiré des enseignements. Alors nous, on a passé énormément de temps, ce qu'on appelle des debriefings et autres. Et puis après, moi, j'ai passé énormément de temps à travailler, aussi bien avec les pompiers, avec le SAMU, mais aussi à l'étranger, pour échanger, pour partager ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait fait, la doctrine qu'on avait mis en place, écouter leur conseils sur, je me souviens par exemple, les Norvégiens qui avaient vécu la tuerie du Toya sur l'île. Voilà. C'est comme ça qu'on s'améliore, entre guillemets. Mais s'améliorer, ça ne veut pas dire qu'on a mal fait.
Oui, je comprends. On est obligé de prioriser des blessés dans ces moments-là.
On est obligé de faire notre job. Voilà. Et moi, mon job, c'était d'évacuer tous les blessés, tous ceux qui étaient encore en vie, le plus vite possible, parce que l'assaut, encore une fois, n'était pas donné. Et donc, pour répondre à votre question, parce qu'on me la pose souvent, on a fait des choix de priorisation pour que ce soit très fluide et pour que les blessés puissent sortir le plus vite possible. Et aussi en fonction de la gravité des blessures. Ça, c'était notre job et là encore une fois, on l'avait largement anticipé. Mais on a laissé personne vivant.
Bah, évidemment.
Non, mais faut le...
Oui, non, mais c'était pas le sens de ma question, mais j'entends ce que vous voulez dire.
C'est le sens de ma réponse.
Vous devez être sympa au quotidien, vous, dis donc.
Non, je plaisante.
Alors, le lendemain matin, votre quotidien, justement, il ressemble à quoi? Le retour à la maison?
Eh ben, le lendemain, c'était une journée en famille très normale. Parce que d'abord, j'ai toujours... alors, je ne sais pas comment Didier ou Marc répondraient à ça, mais moi, j'ai toujours cloisonné. Par rapport aux héros, moi, clairement, mes enfants, ils n'en ont rien à foutre. Enfin,
rien à faire?
Rien à faire, si vous
voulez. Ils ont quel âge? Ils avaient quel âge à l'époque?
Il faut que je calcule.
Environ, des ados, des jeunes enfants?
Non, ils étaient ils avaient de 11 à... Enfin, même de 10 à 5.
Oui, mais suffisamment, ceux de 10 étaient suffisamment grands pour comprendre que vous interveniez sur
avec
place.
Avec mon ex-femme, jamais, elle est médecin aussi, et on ne cultivait surtout pas le raid, les...
Oui, je comprends. Donc, ils ne savaient pas, en fait. Ils étaient protégés de ça.
Si, on ne cachait rien. On n'est pas dans le déni, mais voilà, on n'en parlait pas. Ce n'est pas le sujet dont on parlait en famille.
Il ne faut pas trop transférer le stress à la maison. Parce que moi, je l'ai vu, il y a eu un avant Mera et un après Mera. Mon épouse qui faisait du sport avait l'habitude de jouer avec les blessures, des choses comme ça. Donc, elle n'était pas très impressionnée par le boulot du raid. Mais après, une blessure, quand même, ça change. Après, il fallait téléphoner pour remonter le moral.
Et vous ne pouvez pas vous rajouter ça en plus, en fait?
Ah, il ne faut surtout pas se décharger sur la famille parce qu'elle fait tourner la boutique. Il y a déjà du stress suffisamment. Si on fait peser sur les enfants un risque de
vie ou de mort, hein, bien sûr.
Moi,
mes
enfants étaient jeunes, ils pensaient que j'avais suffisamment, comme les chevaliers, suffisamment de suffisamment de protection pour que ça se passe bien. Mais quand... Pourtant, la famille sait qu'il y a déjà eu des morts dans l'unité. On a eu 3 morts dans cette unité, plus de 20 blessés par balle, mais 3 morts, les enfants, la famille le sait. Mais quand tu es toi-même impacté, forcément, ça change les choses quand même.
Ça va rebondir sur ce que dit Marc, et ça va vous intéresser. Un des enseignements qu'on a eu après l'affaire Mera, et donc la blessure de Marc, c'est qu'on a vu l'impact. D'abord, on arrivait dans l'ère des médias, des réseaux, des journaux d'information permanente, des réseaux sociaux et tout ça. Et donc, ça a été la première grosse crise au RAID, si on reprend Neuilly, tout ça, où il y a eu une émotion propagée par les médias.
Parce que tout était en direct.
Exactement, ouais. Et qui a impacté nous. Nous, on ne regarde pas BFM quand on est pendant les 30 heures à Toulouse. Donc, on s'en rend pas compte.
J'ai été obligé, moi, à 7 heures du matin, quand j'étais à l'hôpital, parce que j'ai été blessé aux alentours de 5 heures du matin. J'ai été obligé à 7 heures, quand tout allait bien, d'appeler mon épouse, parce que je me suis dit, si elle l'apprend...
Elle était au courant, oui, bien sûr.
Non, elle n'était pas au courant. J'ai été blessé à 5 heures du matin. Si à 7 heures, je ne lui apprends pas, elle risque d'apprendre ma blessure.
Je comprends.
En conduisant mes enfants à l'école, risque d'avoir un accident.
C'est ce que je voulais... c'est suite à sa blessure qu'on a pris la décision pour que l'émotion dans les familles ne soit pas trop forte. Et il a été pris la décision de mettre en place une cellule sur tous les événements majeurs. On mettait en place une cellule à Bièvre où d'anciens du RAID, donc Marco maintenant par exemple ou moi, on viendrait... Et on servirait de réception.
De médiateur, oui, c'est ça.
Parce que,
donner des nouvelles, expliquer comment ça se passe.
Ils ont inondé le standard d'appels anxieux, ce qui est normal. Ils tombaient sur quelqu'un qui avait en plus autre chose à faire, parce qu'il devait répondre à toutes les autres missions qu'il était dévoyé. Et donc, il a été décidé de mettre une cellule de soutien, mais... propre au RAID.
Pour les familles.
Et s'il y avait blessure, ce qui a été l'enseignement, c'est que s'il y avait blessure, c'était immédiatement cette cellule-là qui appelait la famille de l'opérateur. Et il avait été aussi décidé que s'il y avait un mort, c'était les anciens qui allaient par téléphone, mais qui allaient au domicile. Oui, non, mais ça, c'était
nouveau.
Et moi, je me souviens, j'en avais même parlé avec les pompiers de Paris qui m'avaient dit que c'est une très bonne idée et je ne sais pas s'ils l'ont mis.
Vous ne m'avez pas raconté comment ça se passe le lendemain matin, parce que vous me dites, votre épouse, j'imagine qu'elle avait passé toute la nuit
devant... Faux, complètement faux.
Ah bon?
Ouais.
Enfin, elle est allée demander. Se coucher
Oui, je suis...
C'est pas un jugement, hein, c'est une vraie question.
Non, elle est allée se coucher.
Et alors, le lendemain matin, vous allez déposer vos enfants à l'école?
Non, le lendemain matin, c'était un samedi,
si
vous vous souvenez bien.
Ouais.
Et donc moi, j'ai erré, après être allé à la Pitié, j'ai erré dans les rues de Paris parce que j'avais une idée en tête, c'était revenir avec des croissants. Sauf qu'il était 5h30 ou 6h, et donc j'ai erré pendant 1h30 histoire de trouver une boulangerie et amener des croissants chez moi. Et on a fait comme si la journée était... elle m'a quand même demandé ce qui s'était passé, parce que moi, quand je suis parti, je me souviens très bien, elle m'a dit, mais il y a eu une explosion au Stade de France, qu'est-ce que tu... Enfin, c'est pas du terreau. Elle comprenait pas pourquoi le RAID allait sur une explosion au Stade de France. Quand je faisais du SAMU, elle aurait dit oui, d'accord, je comprends. Mais là, elle comprenait pas. Donc, et elle était restée là-dessus. Et quand le lendemain matin, je lui expliquais maintenant que c'était pas vraiment le Stade de France, qu'il y a eu le Bataclan, qu'il y a eu 130.
Elle a pris conscience après coup aussi de la gravité de tout ce qui s'était passé.
Donc la journée était normale. Et puis le soir, je sais pas ce que t'as fait toi, mais je sais que moi j'ai bossé.
Le soir, nous, à chaque fois, que ce soit Vincennes ou que ce soit les attentats du 13, les choses se mélangent un peu, mais à chaque fois, c'est la même chose. On remet tout le matériel en place pour être prêt à repartir, parce que ça peut repartir 2 heures après. Ensuite, on se réhydrate, parce que quand on fait des interventions longues comme ça, on perd beaucoup d'eau, donc on boit plus d'un litre 5 d'eau sans... Très vite.
S'arrêter presque. Ouais.
Et puis après, justement, on se réserve un petit peu. Je vous parlais du sas de décompression.
Ouais.
Avec les camarades, on a bu une petite bière et on a discuté ensemble pour rentrer en bon état. Mais quand vous posiez la question de qu'est-ce que vous avez fait le lendemain...
Visiblement, ce n'était pas qu'une, mais peu importe.
Oui, on a bien compris.
Par contre, moi, le lendemain, j'ai regardé un dessin animé avec mes enfants.
C'est vrai?
Au petit matin.
Vous avez regardé quoi?
Quand on regarde ça. Non, parce que quand les enfants se lèvent, toi, tu n'as qu'une chose en tête, quand même, c'est de regarder les informations. Mais justement, pour ne pas transférer, j'ai été obligé de regarder un dessin animé.
Oui, je comprends, ça peut être
enfants,
un... Ouais.
Avant qu'ils partent faire leurs devoirs, pour enfin que je vois ce qu'ils se disaient.
Vous trompez sur Marc, hein.
Quoi?
Vous croyez que c'est un gros dur, mais en fait, il regarde des dessins animés.
Non, on a bien compris que ce n'était pas un gros dur. Mais en effet, c'est une manière aussi de s'ancrer dans la réalité.
Ça,
j'ai une pensée pour ses épouses, quand même. Ouais. Il faut qu'elles aient le cuir sacrément épais, elles aussi, par ricochet.
Ah oui, je pense aussi. Bah, y a certainement une angoisse énorme. Et peut-être, alors, une interprétation totalement sauvage, mais peut-être aussi que votre femme, à l'époque, se protège en ne regardant pas du tout ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut s'arrimer quand on sort de tels événements à la réalité. Vous achetez des croissants, vous allez regarder un dessin animé et probablement vous mettez, j'imagine, des rites en place. Vous avez parlé du loup blanc, du loup noir avant de rentrer pour ce fameux sas.
Les croissants.
Les croissants de décompression. Et il y a aussi, effectivement, il y a l'angoisse des épouses. Et il y a aussi pour vous le fait, j'imagine, de quand vous vous retrouvez à l'intérieur de la cellule familiale, ça vient aussi apaiser quelque chose. C'est là peut-être où vous pouvez vous réparer de tout ce que vous venez de subir.
Alors. Après, moi, je m'appuie aussi sur mon expérience de médecin. Après, il y avait un truc qui m'avait franchement frappé, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après les attentats en novembre, il y avait un peu la folie partout, et en particulier dans les écoles. Tout le monde était persuadé que la prochaine cible, c'était les écoles.
Ouais.
Et ça n'a pas loupé. Dans l'école de mes enfants, c'était l'angoisse totale. Et il se trouve que, je ne sais pas, il y a des associations de mères de famille qui ont...
dire que vous travaillez là.
Qui ont dû savoir que je travaillais au RAID et tout. Et tout le monde était angoissé. Je me souviens de mon ex-femme qui me posait des questions en me disant « Est-ce que tu pourrais appeler un tel ou un tel pour les rassurer ?» Et je dis « Mais... » Enfin, c'était... Et mes enfants étaient probablement les plus rassurés de l'école. Ce que je veux dire, c'est que l'attitude des parents...
Bien sûr.
Mais on dépasse le cadre du RAID. Hein. Mais l'attitude, les enfants, c'est des éponges. Donc si les parents sont anxieux, c'est sûr qu'ils vont s'en inspirer. Si les parents ne sont pas anxieux, je ne crois pas qu'on soit très anxieux, nous trois.
Et vous, Didier, comment vous revenez à la réalité après? Comment vous vous réancrez dans votre vie personnelle?
Le sport a une place prédominante pour tous.
Vous faites quoi comme sport, vous, Didier?
Moi, je suis du triathlon maintenant.
D'accord.
Voilà. À l'époque, quand je suis rentré au GIPN, c'était les GIPN à l'époque. Je faisais encore de la boxe, mais j'ai arrêté. Au niveau de l'articulation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vrai que beaucoup le disent quand il y a une grosse crise. Après, c'est le sport pour se détendre.
Pour se défouler,
c'est vrai qu'il y a
ouais.
aussi ce petit sas qu'il y a derrière avec tous les collègues. C'est vrai qu'on boit une bière très souvent pour faire le petit debriefing.
Fait plus d'une depuis tout à l'heure.
Hein. Parce que l'histoire de la fatigue, c'est pas simplement l'intervention. C'est que souvent les gens voient que l'intervention, mais après Vincennes, par exemple. On peut faire un peu de sport, tout ça, mais enfin, surtout, après Vincennes, par exemple, il a fallu...
Mais
après...
ça ne s'arrête pas, il y a d'autres choses.
Oui, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'on a la fatigue de l'intervention, aussi bien physique que psychique, mais deux jours après ou dès le lendemain, il faut aller chercher celui qui a prêté la voiture, il faut aller chercher celui qui a prêté les armes, il faut aller chercher...
Oui, nous, on est presque passé à l'étape d'après, mais vous êtes
encore... Et en fait, c'est une gestion de la vigilance qui n'est pas facile, ça, parce que ça fait des nuits blanches,
bien sûr.
Des nuits très altérées.
Ça s'accumule.
Et là, on sent bien la fatigue qui se cumule et c'est un vrai sport que de rester opérationnel.
Et l'hypercachère, ça faisait trois jours qu'on était dans la traque des frères Kouachi.
Presque 48 heures sans dormir.
Et on était avec la tenue, là, avec les
40 kilos, ouais.
Voilà. Et on était comme ça depuis trois jours.
Avec des repas qui sautent même, parce qu'on était très réactifs.
C'est usant.
Pour que l'enquête... Parce qu'il ne fallait surtout pas... Il ne faut pas attendre l'enquête. Les Raleigh de Calcal, Émile Louis, Francis Saune, tous... Michel Fourniret, c'est plusieurs années d'enquête. Là, quand on a l'opportunité d'attraper le terroriste, on n'a quasiment pas... Pendant 48 heures, on a dormi 2 heures, nous. Enfin, même pas dormi, parce qu'on avait les radios et les téléphones. À la CRS, on s'est couché à la CRS de Reims 2 heures. Mais on n'a quasiment ni mangé, ni bu, ni dormi, donc, pendant 48 heures. On allait à droite, on était réactifs. On a été jusqu'à Reims dans l'environnement familial des terroristes. Après, on a fouillé la forêt de Soissons, on a fouillé des villages, on a donné des assauts sur des maisons suspectes. On a été réactif pendant 48 heures. Donc, juste avant le 9 janvier, on n'a quasiment pas dormi, ni mangé, ni bu.
Didier, vous-même, vous étiez prédestiné à rentrer dans la police ou faisiez quoi à l'origine ?
Non ? Pas du tout. Alors, moi, j'ai un parcours atypique puisque, effectivement, j'étais un petit voyou quand j'étais adolescent. Voilà, donc j'étais pas fait
genre quoi, vous faisiez quoi? Délinquant, quoi?
Pardon?
Délinquant, vous saisiez quoi?
Oui, oui, c'est ça. J'ai été condamné pour des vols avec effraction.
D'accord.
Donc, excuse de minorité, parce que j'avais 13-14 ans. Et puis après, j'ai remis le couvert. Hein. Et à 19 ans, là, c'était la prise en sursis. Quand j'ai passé concours police, c'est ma mère qui m'a obligé à le faire. Voilà.
Donc, c'est drôle. Remercie.
Mais moi, à l'époque, c'était pas du
tout... Pour vous sortir d'affaires, en fait?
Bah, oui, un peu, ouais. C'était pas du tout une vocation pour moi. Et il se trouve que j'étais souvent puni à la maison, puisque quand je sortais, c'était pour faire des bêtises. Donc, je me suis mis au sport, et notamment la boxe. Voilà. Et on va dire que la boxe m'a sauvé. Voilà.
Mais alors, comment vous êtes devenu...
Quand on fait des combats de boxe le samedi soir, on n'a pas envie d'aller se battre le lendemain.
On a eu sa dose.
Donc, ça m'a canalisé.
Mais alors, comment vous êtes devenu négociateur?
Eh bien, faut déjà... Je suis rentré dans la police. Et puis, très, très vite, mon passé sportif, on m'a incité. On m'a dit, mais il faut que tu rentres au GIPN ou au RAID à l'époque. J'ai passé les habilitations. J'ai attendu d'avoir 30 ans pour être un petit peu stabilisé dans ma vie familiale. Et puis, quand on rentre dans un groupe d'intervention, on veut casser des portes et interpeller des méchants. Hein. On n'a pas envie de négocier au départ. La négociation est venue après. Hein. Mais se rend compte que même les collègues à l'époque, hein, quand la négociation est arrivée chez nous, on ne la voyait pas forcément d'un bon œil, puisque les opérateurs, des fois, ils restent 6 heures équipés en lourd devant une porte, pendant que le négociateur, il est dans un bureau, dans la voiture, en train de négocier au téléphone. Et des fois, ça ne fait pas rigoler. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu des blessés dans l'unité, il y a des morts. Donc, il faut laisser la place. Et c'est même devenu obligatoire. On négocie tout le temps.
Ils perdent patience, parfois? Pardon? Les opérateurs, ils perdent patience, parfois?
Non. Non, non, non. Ah non, c'est un job, c'est une équipe. Hein. Ouais, y a pas, on ne se demande pas qui a gagné, si c'est les opérateurs... le groupe d'intervention ou si c'est le négociateur, c'est toute la team qui gagne.
Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon négociateur?
Il faut être capable de rester calme et un sens de l'écoute. Une bonne communication aisée, parce qu'en général, ça va durer plusieurs heures et les individus, ils parlent de tout et de rien. Mais ça peut aller dans tous les sens. Et donc, faut être un petit peu... avoir une communication aisée, mais il faut rester calme parce que très souvent, il y a une première recherche d'influence quand on arrive et c'est très souvent les insultes. Donc on se fait insulter et des fois, très longtemps, sur une prise d'otage, je me suis fait insulter pendant 10 minutes quasiment stop. Il ventile ses émotions. Donc on le laisse ventiler ses émotions. De temps en temps, on va placer 2-3 mots, il va repartir sur des insultes, mais il est en train de répondre. Et au fur et à mesure, il y a une communication qui va s'installer puisqu'on reste calme, poli, courtois. Eh bien, avec une gestuelle apaisante si on est en face à face, mais la communication va devenir de plus en plus normale et il va enfin commencer à communiquer avec nous.
C'était quoi la mission de négociation qui a été la plus marquante dans votre carrière?
C'était une des premières, c'était avec un individu qui avait pris une femme en otage dans un train à Bordeaux et qui la maintenait avec 2 sabres sous la gorge. Et il se trouve qu'on a négocié, j'ai négocié à moins de 2 mètres de lui, en face à face. Et là, 2h30 en face à face avec quelqu'un qui...
Ouais, c'est long.
Voilà, quand on craint pour sa vie, c'est pas facile du tout. Bon, ça s'est très bien fini, heureusement.
Vous me disiez que vous aviez commencé un peu, quand vous aviez 30 ans, c'est ça, d'être un peu stabilisé dans votre vie. Il y a tous les âges, vous me disiez que c'était un groupe hétérogène. Néanmoins, il faut quand même avoir un peu de bagage, non?
On est obligé d'avoir quelques années avant de passer les
années. Oui, c'est ça.
Pendant les 20 ans que j'ai fait au RAID, de 98 à 2018, le plus jeune d'entre nous avait 27 ans. C'est quand même un métier où il fallait... Alors, ça évolue parfois au niveau de la réglementation, mais moi, à mon époque, c'était 50 polices. Donc, il faut une certaine maturité. Parce que l'air de rien, on nous présente comme des hommes d'action. Mais en fait, notre plus gros travail, c'est de repousser cette action le plus loin possible. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est de ne pas appuyer sur la détente. Notre but, c'est d'attraper la personne vivante pour la remettre à la police judiciaire, pour la remettre ensuite à la justice. Et ça demande de la maturité parce qu'il faut bien se connaître et il faut bien se contrôler. Il faut connaître ses compétences pour repousser le plus loin possible, le moment où tu ne peux pas faire autrement que d'appuyer sur la détente.
Et le médecin du RAID, il doit soigner autant les opérateurs, mais il peut être amené à soigner l'agresseur?
Oui, Alors,
il est là pour nous d'abord, j'espère.
Oui, ça j'ai bien compris. J'ai dit d'abord vous.
Mais est-ce que ça peut arriver avec Marco?
Non, mais moi c'est mon avis. J'espère que parce que nous quand on va, on lui fait confiance, quand on prend des risques, ça nous rassure quand même. Il y a eu un opérateur en 96 qui a sauvé sa vie grâce au médecin parce que le médecin d'unité. Je vais te laisser la parole sur ce truc-là, mais le médecin d'unité va plus près de la crise que les SAMU qui est autour. Donc, l'opérateur qui a été sauvé en 96 doit sa vie au médecin du RAID. Mais en plus, après, moi, me concernant, par exemple, c'est les pompiers qui m'ont amené à l'hôpital. Mais savoir, parce qu'on coopère beaucoup avec les forces spéciales militaires, eux, ils nous racontent des trucs très impressionnants. Quand ils sont touchés sur une opération, mais qu'ils se font porter sur plusieurs kilomètres et que leur hémorragie, il faut la bloquer avec un garrot. Voilà, nous, chez nous, sur le forcené d'Evreux, j'ai vu, moi, un maître chien prendre une balle des plombs de chasse dans la cuisse. Bon, bien, le médecin, immédiatement, lui a coupé la combinaison, lui a mis de la morphine et a fait les premiers soins. Donc ça rassure quand même d'avoir un médecin dans la colonne. Alors après, qu'il aide le terroriste, bien sûr. Mais on est content de l'avoir derrière nous d'abord.
Alors c'est un sujet délicat, et la preuve. mais clairement, notre rôle, le rôle des médecins au RAID, c'est d'intervenir justement dans la zone de danger extrême, donc on appelle zone rouge, ou peu importe, c'est la zone sous le feu. Là, on est entraîné, formé, et surtout, on est en unité constituée. C'est-à-dire qu'hors de question de le faire sans une organisation et des entraînements. Et donc ça s'apprend, c'est un vrai savoir-faire. Mais notre rôle, il est vraiment d'apporter la capacité de secourir et de soigner au plus près de la crise. Et là, clairement, c'est l'évolution qu'on a faite entre 2012, où à l'origine, et on reprend, ça existe dans beaucoup de domaines, et particulièrement chez les militaires, à l'étranger, où c'est vraiment du soutien du combattant, donc de l'opérateur. Après l'affaire Mera et en particulier avec Amaury d'Hautelocq qui était le patron de l'époque, on a réfléchi, on s'est dit non, dans cette zone dite rouge, cette zone de danger, on soigne tout le monde et on va un jour être confronté à ce qu'on appelle maintenant les tueries de masse. Et quid, comment on fera pour soigner non pas qu'un opérateur, mais un opérateur et peut-être énormément de monde, ce qui est arrivé malheureusement le 13 novembre. Et heureusement qu'on s'est préparé parce qu'on s'est, on a travaillé différemment, on a développé des outils techniques, mais surtout d'organisation, en coordination avec les pompiers. Donc notre rôle, il est vraiment dans la zone rouge de secourir et de sauver sous le feu. Mais ensuite, c'est coordonné et dès que le blessé est évacué, il est confié à des pompiers qui l'évacuent vers l'hôpital.
Soutenir les combattants, vous dites soutenir, c'est-à-dire soutenir aussi psychologiquement ?
Alors, c'est un rôle psychologique. Le fait qu'on soit là, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, mais il...
vous aime beaucoup.
je retire ce que j'ai dit. Mais en fait, on...
Si, la présence est un soutien, ça j'ai évidemment compris.
Comme moi...
Pas un soutien psychologique, mais
si la présence en elle-même est un soutien, bien sûr.
Parce que je veux dire, voilà, nous on est content de savoir que si on se fait impacter, eh bien on sera pris en charge immédiatement, quand même, parce que souvent les premières minutes après une balle, c'est quand même souvent décisif médicalement. Donc on est content que nous on se tape pas 10 km sur le dos d'un pote.
Je posais la question s'il pouvait avoir un soutien direct, si ça pouvait être le rôle du médecin d'être dans le soutien immédiat qui va d'abord, quoi.
Non, ça je m'en suis rendu compte au Bataclan, justement avec les victimes qui refusaient, qui étaient en état de sidération et dissociation pour certaines complètes. Et là, mais ça c'était l'expérience du médecin. Moi je suis anesthésiste réanimateur, donc le patient hyper anxieux, ça m'a servi justement pour arriver à faire disjoncter à reconnecter le cerveau plutôt.
À sortir de la dissociation.
Il y avait des victimes qui ne voulaient rien entendre et qui sortir du Bataclan, c'était impossible. Et donc, il fallait en quelques secondes, parce que là, on n'a pas le temps de faire de la psychothérapie comme vous faites.
Les ramener à la...
Ben, il faut arriver en réel, quelques quoi. Mots, en un regard, ou ça, à leur dire, attendez, il va falloir que vous me fassiez confiance, vous m'écoutez,
et qu'on
sorte ensemble. Mais pour illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure sur le soutien psychologique des opérateurs, on n'est pas psychologue, et c'est en plus des amis. Mais on voit bien, moi, j'ai les senti à chaque fois... Plus l'intensité de l'opération monte, plus le regard qu'ils portent vers nous change.
Oui,
je me souviens de Cyril et Jen en particulier, toi tu étais déjà à l'hosto, pendant l'affaire Mera, quand on prépare le deuxième assaut, je voyais bien que leur regard
avait
est
besoin
beaucoup
de
plus intense.
Soutien, bien sûr.
Ça, alors donc, ils ne vont pas aller me dire, bon, t'es là.
Non, mais ça se ressent.
Je vous rassure quand
ça
même.
Ça se ressent.
En opération, on n'a pas besoin d'être psychanalysé.
Non.
On est prêt techniquement, physiquement, stratégiquement et psychologiquement pour agir. Après, peut-être, on gérera. Mais pendant l'intervention, on n'a pas besoin de soutien.
Et ça se voit dans le regard. Hein, mais comme moi, je les regarde différemment quand je sens que là, on va sur quelque chose d'intense.
Didier, combien de temps peut durer une négociation au maximum?
Il n'y a pas de temps, hein, 33 heures pour l'affaire Mera.
D'accord. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à la retraite quand on est retraité du RAID?
Moi, je me suis spécialisé dans la communication de crise et la négociation de crise. Donc, j'ai continué à apprendre en retournant à la fac. Ça tombe bien, je n'avais jamais vécu quand j'étais jeune. Et donc, j'ai fait des DU pour en apprendre encore plus. Et j'ai monté une autre entreprise. Et donc, j'interviens dans les entreprises, soit en conférence sur la négociation de crise, soit sur la gestion des agressions.
Et voilà ce livre dont vous êtes l'auteur, « Les recruteurs de la mort, la communication djihadiste décryptée par un négociateur du RAID ».
Oui, en fait, ils utilisent les mêmes techniques de communication de base que les négociateurs du RAID ou du GIGN. Donc, j'ai fait un parallèle entre les deux. Ouais. C'est le même processus pour arriver au changement comportemental de l'individu ou de la radicalisation. Ils utilisent les mêmes techniques.
Marc, vous avez écrit ce livre également au cœur du RAID que vous avez publié. La retraite, vous êtes à la retraite aujourd'hui?
Oui, depuis 2018.
C'est pas fade?
Non, j'avais connu ça déjà en arrêtant le sport. On me disait, ça te manque pas le sport. Mais je vous dis, au RAID, j'ai trouvé un autre cheval de bataille. Et puis maintenant, on me pose la question sur le RAID. Mais non, alors j'ai fait ce livre peut-être pour tourner la page où j'explique les interventions, j'explique les coulisses des interventions et puis j'explique aussi ce qui se passe dans la tête d'un opérateur d'assaut avant, pendant et après une intervention. Parce qu'en fait, maintenant, je donne des conférences sur la gestion du stress et donc en effet sur comment faire pour garder opérationnel ses habiletés mentales sous stress.
Vous êtes redevenu médecin plus traditionnel aujourd'hui?
Alors, il n'y a pas de...
Oui, j'étais sûre que vous alliez rebondir là-dessus. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant?
Alors, moi, je suis toujours médecin.
Voilà.
Et je fais un peu comme mes deux collègues. Je fais des conférences. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain dans la crise. Donc, tout à l'heure, quand Marco disait, je ne sais plus ce que tu avais dit, je pense que la force du RAID, c'est surtout qu'on est spécialiste de l'humain en crise et l'humain dans la crise.
Merci à tous les trois. En tout cas, on a reçu beaucoup de tweets. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous qualifie de héros, mais on a eu beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui veulent vous manifester leur respect, en tout cas. Merci pour cette heure qu'on vient de passer ensemble. Je ne vous ai pas du tout donné la parole à tous
les
deux.
Non, mais on était très bien.
Je suis absolument confuse. Mais c'est vrai qu'on avait tellement envie de les écouter. À un moment, j'étais complètement pris dans leur récit, ne m'en voulais pas.
C'est servir sans faillir.
Voilà, très bien. Et ça me fait une merveilleuse conclusion, Marc. Je vous prie de m'excuser, en tout cas. Merci beaucoup. Votre livre, Mathieu, s'est affiché. Il s'affiche également à l'arrière. Médecin du RAID également. Voilà, ces livres que vous pouvez vous procurer. Merci en tout cas à tous pour votre confiance. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très beau week-end sur France 2. Je vous embrasse, on se retrouve dans un instant. Et puis, très vite, dès la semaine prochaine. Je vous embrasse. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.